Bienvenue à la conférence Alten sur le chiffre d'affaires du premier trimestre 2020. Je laisse à présent la parole à Monsieur Bruno Benoliel, directeur général adjoint. Monsieur, c'est à vous.
Oui, bonsoir. Donc bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous remercie de participer à notre conférence téléphonique qui concerne l'activité du premier trimestre 2020. Premier trimestre qui a été marqué par le début de la crise sanitaire en Chine dès janvier-février, puis en Europe à partir de la mi-mars, et enfin aux US. Cette crise sans précédent, pire que celle de 2008, a entraîné des arrêts et des suspensions de projets, massifs à certains endroits, plus limités à d'autres. Les chiffres du premier trimestre que je vais vous présenter emportent les stigmates, mais surtout ne permettent pas de tirer des conclusions sur les dynamiques et les tendances, que ce soit par secteur d'activité ou par géographie. Après la période de confinement qu'il a fallu gérer en Chine avec un impact limité sur l'activité du groupe, pour mémoire, le chiffre d'affaires de la Chine était de 32 millions d'euros en 2019, les mesures de confinement en Europe ont mis à l'arrêt plusieurs industries, comme aux USA plus tardivement. Notre chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 est de 690,1 millions d'euros, en progression de 7,3% par rapport à celui du premier trimestre 2019. Il était de 643,3 millions d'euros. En France, l'activité est stable. Hors de France, elle progresse de 13,2%. Les acquisitions, pour 20,2 millions d'euros de chiffre d'affaires, ont contribué à hauteur de 3,3% à la croissance totale du groupe. L'effet de change a contribué à hauteur de 0,4% à la croissance ce trimestre. En conséquence, à données constantes, périmètre et taux de change, la croissance s'établit à 4%, soit 0,4% en France, du fait de la cession d'une petite société fin 2019 que nous avons cédée et qui avait réalisé 2,7 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019. Donc la croissance organique est de 0,4% en France et de 6,8% hors de France. Le trimestre a compté 0,65 jours ouvrés de plus que l'an passé en moyenne, un jour ouvré de plus en France et 0,5 jours ouvrés de plus à l'international, ce qui a amélioré l'activité de 1% environ. Ce premier trimestre 2020 va compter 123,8 jours ouvrés versus 123 l'an passé, donc 0,8 de plus, et le second semestre comptera 127,8 jours ouvrés. Il était de 127,1 en 2019, soit 0,7 jours ouvrés de plus au second semestre, ce qui au total nous fera un jour et demi de plus qu'en 2019 cette année. Le premier trimestre avait démarré dans la continuité de l'année dernière, tant en France qu'à l'international, c'est-à-dire avec une activité dont le taux de croissance revenait vers des niveaux plus normatifs, comme nous vous l'avions expliqué lors de la réunion du mois de février. Dès février 2020, les recrutements avaient permis de compenser les départs de fin décembre et nous comptions 32 850 ingénieurs fin février, c'est-à-dire 300 de plus que fin décembre dernier. Mars a marqué un coup d'arrêt net et les effectifs à la fin du trimestre ont été ramenés à 32 760 ingénieurs sur un total de 37 500 collaborateurs. Donc pour mémoire, nous étions 37 200 fin décembre 2019, dont 32 550 ingénieurs. Nos effectifs totaux ont donc cru de 300 collaborateurs, dont 229 ingénieurs, 115 par croissance organique et 114 par croissance externe. Petite société que nous avons intégrée et consolidée au Japon qui fait 115 personnes. En France, les effectifs ingénieurs ont décru de 121 personnes et hors de France, à périmètre constant, les effectifs ont cru de 236 personnes. La croissance des effectifs a principalement été réalisée au UK, en Italie et en Amérique du Nord. Bon. Cela dit, comme vous pouvez l'imaginer, la préoccupation depuis mars n'est plus tellement le recrutement, mais le maintien de l'activité, compte tenu de ce qui s'est passé. La quasi-totalité des ingénieurs Alten dans le monde peuvent travailler en télétravail si le contexte client le permet. Malheureusement, cette opportunité se décline de manière très hétérogène selon les clients et les zones géographiques. Plusieurs clients, dans l'industrie quasi exclusivement, ont suspendu des projets, voire les ont arrêtés, ou encore vont les redimensionner. Certains ont décidé de fermer leur site et de suspendre toutes leurs activités durant cette période, et n'ont pas permis que le travail à distance puisse s'organiser, même pour des projets gérant un work package dans nos locaux, ou pour des questions d'infrastructure informatique ou de manque d'interlocuteurs dans leurs équipes. De façon plus pragmatique et pour anticiper la crise à venir, la chute des ventes notamment, confrontée à des problèmes de trésorerie, plusieurs clients ont décidé de geler une part très significative de leurs projets en cours, de façon à en faire l'inventaire pour décider à l'issue des périodes de confinement quels seraient les projets prioritaires à poursuivre, quels seraient les projets à poursuivre mais en réduisant sensiblement la taille de l'équipe, et quels seraient les projets à arrêter définitivement. Il est à date très difficile d'y voir clair car les plans de reprise d'activité ne sont pas encore connus chez plusieurs clients majeurs et ou dans certaines industries durablement affectées par la crise, l'aéronautique civile et l'automobile notamment. Ainsi, depuis mi-mars, le taux d'intercontrat est en progression constante, notamment en France, en Suède, en Allemagne, au UK, en Europe du Sud, puis maintenant aux US, car plusieurs clients prennent des décisions au jour le jour, entraînant une augmentation constante du bench. Nous sommes confrontés quotidiennement à ce genre de décisions. Ainsi, sur le premier trimestre, le taux d'activité a perdu 2 points à 89,8% versus 91,8% l'an passé, mais le mois de mars a fortement pesé sur l'activité car le taux d'activité s'est élevé à 88%, soit 12% d'intercontrat. Le début de la crise sanitaire a obéré d'un tiers la croissance du Q1 qui a ainsi été minoré de 2%. Le taux que je vous communique, il agrège des situations très hétérogènes selon les zones géographiques et les secteurs d'activité ou clients. Je vous parlais de la situation par zone géographique principale, en sachant que les tendances du premier trimestre, évidemment, ne peuvent pas être extrapolées pour le second, et que si je vous donne des projections pour le premier semestre, puisque nous sommes en mesure d'en esquisser certaines, elles sont évidemment à prendre avec toute réserve dans la mesure où la situation est extrêmement changeante et où nous n'avons pour l'instant pas de visibilité claire sur l'ensemble du trimestre pour une part assez significative de nos clients. Donc en France, au Q1, l'activité a été stable, plus 0,4%. La suspension des projets en mars a pénalisé la croissance de 2,2%. Elle aurait donc été quasiment de 3%. Les secteurs qui ont cru étaient l'aérospatiale, plus 4, la défense et sécurité, plus 10, l'énergie, plus 10, le nucléaire, plus 16, le ferronaval, plus 19, et les télécoms, plus 4. Au total, au premier trimestre, les deux tiers de l'activité d'Alten étaient en croissance. Q2 sera forcément très différent. La crise sanitaire, dont les impacts sont très violents en France, a conduit à de très nombreux arrêts ou suspensions de projets, principalement dans les secteurs de l'ASD, de l'automobile et dans le tertiaire chez Amadeus, Amadeus dépendant directement du transport aérien, mais pas simplement. Beaucoup de clients, tous secteurs confondus, ont fermé leur site ou n'ont pas permis que les projets se poursuivent en télétravail. Dans certains secteurs en avril, le taux d'intercontrat atteint 50%, et il devrait s'élever en France à plus de 30% sur avril pour décroître ensuite au gré des reprises d'activité chez les clients. Même si nous ne connaissons pas encore les plans de reprise et encore moins le niveau d'activité normatif sur lequel compter post-Covid du fait de la remise à plat des stratégies industrielles chez nos gros donneurs d'ordre, nous imaginons avec toute réserve que le recul de l'activité sera de l'ordre de 15% en France au premier semestre, dont 18% dû à la crise. À l'international, l'activité est également touchée par la crise sanitaire, mais de façon hétérogène selon les pays. Évidemment, aucune des données Q1 n'est extrapolable sur Q2. Je vais vous donner pays par pays une photographie de la situation à date, ainsi qu'une tentative de projection pour l'ensemble du premier semestre. En Amérique du Nord, au Q1, l'activité a accru de 25%, dont 16% en organique. Le forex a été significatif, puisqu'il a été positif de 3,3% ce trimestre. Tous les secteurs aux US étaient en croissance au Q1. Les secteurs les plus dynamiques, comme en 2019, étaient l'automobile, plus 10, l'énergie, plus 50, les sciences de la vie, plus 25, les télécoms, plus 11, l'activité finance tertiaire, plus 5. La crise sanitaire n'a touché les États-Unis qu'à partir du deuxième trimestre, avec une progression du taux d'intercontrat extrêmement forte dans les secteurs automobile et poids lourd dans un premier temps, où nous avons 500 personnes, du fait des arrêts et suspensions de projets. Le secteur de l'énergie, particulièrement l'oil and gas, est maintenant touché, pour les raisons que vous imaginez, et l'offre conseil en management et pilotage de projets, donc les practices PMO et conseil agile, nous avons 350 personnes qui sont déployées principalement dans les secteurs de l'énergie et finances tertiaires. Ainsi, le taux d'intercontrat aux US pourrait atteindre 20% au Q2, ce qui fait que l'activité US pour être stable au premier semestre, alors que nous anticipions une croissance supérieure à 10%. En Allemagne, l'activité a reculé de 6,3% à périmètre constant au premier trimestre, Allemagne déjà affectée par la crise, qui a pesé pour 3% environ dans le recul de l'activité. Dans le secteur automobile, 45% du chiffre d'affaires, l'activité a reculé de 10%, 15% chez les équipementiers et 7% chez les constructeurs. Quant à l'aéronautique, elle est en légère croissance au premier trimestre. Mais au Q2 comme en France, et pour les mêmes raisons, plusieurs projets ont été suspendus. Je vous rappelle que l'automobile et l'aéronautique à E2 représentent en Allemagne 77% du chiffre d'affaires. Le taux d'IC pourrait atteindre 22 à 25%, le taux d'intercontrat, pardon, raison pour laquelle le recul attendu au premier semestre en Allemagne serait de l'ordre de 20%, dont 15% à 16% dû à la crise. En Scandinavie, l'activité à périmètre échange constant recule de 4% au premier trimestre. Elle progresse en Finlande de 3%, qui représente 20% du chiffre d'affaires scandinave. Mais la Finlande est également affectée par la crise au Q2 et devrait de facto être en recul de 13% juste au Q2, ce qui probablement fera pour la Finlande une activité en recul d'un peu plus de 5% sur le premier semestre. En Suède, 80% du chiffre d'affaires scandinave. Le secteur prépondérant, qui est le secteur automobile et poids lourd, puisqu'il représente 52% du chiffre d'affaires de la Suède, a arrêté une part majoritaire de ses projets dès la mi-mars. De ce fait, leur activité est en recul de près de 5%, dont 2,5% dû à la crise. Le deuxième trimestre sera très obéré par la crise, avec un taux d'intercontrat comparable à celui de l'Allemagne, d'où un recul attendu sur le premier semestre de l'ordre de 20% en Suède également, dont près de 15% dû à la crise. En Espagne, l'activité croît de 6,8% au total, mais de 1,5% à périmètre constant. Pourtant, la crise sanitaire a débuté plus tôt, en février, et des mesures strictes de confinement ont été mises en place. Mais à l'exception du secteur sécurité et défense, en recul de 20%, et de l'automobile en recul de 20% également, les deux secteurs représentant 25% du chiffre d'affaires espagnol, secteurs qui ont suspendu leurs projets comme partout ailleurs en Europe. Les autres secteurs d'activité ont poursuivi leurs activités, ont poursuivi les projets en télétravail, et l'activité a pu se poursuivre à peu près normalement. Tous les autres secteurs sont en croissance. Au Q2, les arrêts de projets du fait de la crise vont s'intensifier dans certains secteurs industriels, mais pas que, entraînant une hausse de l'intercontrat. Mais de ce fait, au premier semestre, on pense qu'en Espagne, l'activité sera en recul, mais mesurée, de l'ordre de 5% à peu près.
Au Benelux,
L'activité croît de 5%, dont 2% de façon organique. En Belgique, elle est stable, même si les performances par secteur sont hétérogènes. Les répercussions de la crise sanitaire se font sentir au Q2. Le S1 devrait être en recul de l'ordre de 7%, dont 5% imputable à la crise. Aux Pays-Bas, l'activité a cru de 14%, dont 4% à périmètre constant au premier trimestre. À l'exception des comptes électroniques semi-conducteurs, qui représentent un quart de l'activité des Pays-Bas, tous les secteurs sont en croissance. L'impact de la crise se fera sentir au deuxième trimestre avec un intercontrat qui devra atteindre 10%. En conséquence, l'activité devrait être stable sur le premier semestre alors que nous anticipions une croissance de l'ordre de 3%. En Italie, malgré la crise sanitaire violente qui a débuté en février, l'activité a pu s'organiser en grande part en télétravail et s'est poursuivie sans trop de difficultés malgré le confinement. Tous les secteurs sont en croissance, même l'automobile, plus 11, même l'ASD, plus 20. Ainsi, la croissance organique a atteint 15%. Néanmoins, anticipant un ralentissement de leur activité, les clients ont réduit assez considérablement les budgets pour le deuxième trimestre. Aussi, nous attendons un ralentissement assez fort de l'activité au Q2, croissance qui donc devrait être en Italie de l'ordre de 8% sur le premier semestre comme conséquence du ralentissement Q2 au lieu des 14% attendus. En zone Asie-Pacifique, le périmètre a continué à croître assez rapidement, plus 32 et plus 13 en organique. La croissance de la zone a été portée par l'Inde, où l'activité locale a poursuivi sa croissance. Inde qui réalise 11 millions d'euros de chiffre d'affaires au premier trimestre avec une croissance de 18%. Inde, où l'activité va ralentir au Q2 du fait des mesures de confinement. La Chine, 6,5 millions d'euros de chiffre d'affaires au premier trimestre, est en recul de 13% sans surprise du fait de l'arrêt des activités entre janvier et début mars. La situation n'est pas encore complètement revenue à la normale, les comptes automobiles étant toujours fortement impactés en Chine. Enfin, le UK, où la croissance a été très vigoureuse, grâce à une année 2019 qui a été exceptionnelle, et nous avions donc une croissance embarquée extrêmement élevée. Croissance très forte dans les comptes aéronautiques, plus 66, automobile, plus 24, nucléaire, plus 100, ferro, plus 113. La crise va pourtant fortement toucher le Royaume-Uni au deuxième trimestre. On s'attend à un recul violent comparé à la croissance très forte du Q1, puisqu'on pense que le recul de l'activité qui va toucher le secteur automobile et le secteur aéronautique va être de l'ordre de 20% au deuxième trimestre. Le S1 restera donc en croissance de l'ordre de 5%, mais la crise nous coûtera entre 13 et 15% de croissance au UK ce semestre. Secteur d'activité, le premier trimestre a donc confirmé les tendances du dernier trimestre 2019, mais la crise a profondément modifié les perspectives par secteur d'activité. Ainsi, l'automobile était en recul de l'ordre de 5% au premier trimestre, recul accentué par le début de la crise sanitaire, avec une évolution assez hétérogène, que ce soit chez les équipementiers ou les constructeurs. Certains sont en croissance sensible, toujours, et d'autres sont en net recul. Cela dit, la crise sanitaire va avoir de très fortes répercussions sur l'activité, et de façon durable, le recul va s'amplifier sensiblement, du moins en 2020, avant un rebond possible que nous espérons en 2021. Le ferro-naval, 4,4% du chiffre d'affaires, est toujours en très forte croissance, plus 37 dans le naval et plus 16 dans le ferroviaire. La crise a ralenti l'activité au Q2, mais les carnets de commandes sont pleins et nous pensons que la reprise devra intervenir courant 2020. L'aérospace, particulièrement l'aéronautique, 16,1% du chiffre d'affaires, accru de 7,3%, de façon homogène d'ailleurs entre le spatial, les équipementiers et les avionneurs. Mais la crise sanitaire qui a fortement impacté les compagnies aériennes va avoir des répercussions profondes et durables sur la filière aéronautique. Beaucoup de projets ont été mis en stand-by, la production d'avions va baisser sensiblement, le taux d'IC sur ce secteur est proche de 45% en avril. Lorsque l'activité va reprendre, nombre de projets ne seront pas reconduits, par exemple dans le manuf engineering, puisque les capacités de production d'Airbus aujourd'hui permettent largement de répondre à la nouvelle demande. Projets qui seront donc non ou reconduits ou fortement réduits. Aussi, la visibilité à date sur le niveau d'activité normatif du secteur post-crise aujourd'hui est très faible. Les activités de défense et sécurité, 4,5% du CA sont en forte progression. Même si Q2 est impacté par la crise, le secteur devrait rebondir rapidement. L'énergie représente 11,5% du chiffre d'affaires d'Alten. L'oil and gas, 6% du CA qui a renoué fortement avec la croissance, plus 25%, va nécessairement être impacté par la chute des prix du brut. Dans le nucléaire, 2,5% du chiffre d'affaires, la croissance reste soutenue, supérieure à 20%, grâce aux activités d'EDF, et l'activité devrait être préservée. Les sciences de la vie, 7,5% du chiffre d'affaires, sont en hausse de 11%. À court terme, l'activité est pénalisée par la crise, mais devrait rebondir dans le contexte sanitaire actuel. Les télécoms, 6,5% du chiffre d'affaires, sont en croissance légère, plus 3,5%. À l'exception d'Ericsson en Suède, la croissance vient des opérateurs. La migration 5G et le caractère incontournable des réseaux, sursollicités pour les activités de télétravail, devraient soutenir l'activité après la crise. L'activité électronique multimédia, 6,4% du chiffre d'affaires, est en léger recul, moins 2, dans la continuité de la fin 2019, en raison d'un recul très significatif enregistré chez Amadeus et qui va fortement s'amplifier à partir du Q2. Amadeus ayant une activité en baisse, je ne sais pas si c'est public, mais donc je ne donnerai pas le chiffre, mais dans des proportions considérables, du fait de la réduction du transport aérien et des semi-conducteurs, où nous enregistrons aussi une baisse d'activité. Donc Q2, dans l'électronique multimédia, on anticipe un recul supérieur à 10%. Finance tertiaire, le chiffre d'affaires du secteur représente 18,4% de l'activité d'Alten. Il progresse de 3% et il est essentiellement tiré par l'activité bancaire. Voilà, concernant les croissances externes, nous avons consolidé au 1er janvier une société dans laquelle nous avions une participation minoritaire à 49% qui était au Japon. Participation qui est passée à 100% puisqu'on avait un call sur cette société. C'est une société qui fait 115 personnes et qui a une rentabilité assez faible, inférieure à 5%. La société sino-japonaise que nous avons acquise, donc fin du premier trimestre, mais le standing était intervenu fin d'année dernière. Société qui est dans l'IT, spécialisée sur les activités de sécurité et de software développement. Société de 400 personnes pour laquelle les clients sont au Japon, mais où l'essentiel des consultants est en Chine. Société qui a réalisé 18 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019 avec une marge légèrement inférieure à 10%. Pour 2020, je ne me risquerai pas à vous donner une prévision d'activité, en tout cas pas pour le second semestre. Ce que l'on a constaté, c'est que les activités IT étaient plus préservées que les activités dans l'industrie. Et d'ailleurs, quand on regarde la répartition de notre chiffre d'affaires par secteur d'activité, c'est la raison pour laquelle finalement les pays d'Europe du Sud s'en sortent mieux, puisque nous avons une activité assez concentrée dans l'industrie, avec une part assez importante des activités auto-aéro dans certains pays, France mais pas que, Europe du Nord également. Nous avons mis en place, bien évidemment, le recours au chômage partiel chaque fois que possible dans tous les pays dans lesquels ce dispositif existe pour pouvoir préserver autant que possible les marges dans la mesure du possible, puisque les taux d'intercontrat auxquels nous avons à faire face sont sans précédent et donc auraient coûté à Alten extrêmement cher si, à minima, une part ne pouvait être prise en compte par les gouvernements. Concernant l'activité du premier semestre, sous réserve évidemment, on s'attend quand même à un recul d'environ 9% à un périmètre échange constant, au mieux des informations dont nous disposons aujourd'hui. Il est impossible de faire des prévisions sur S2 puisque nos clients sont eux-mêmes dans l'impossibilité, pour certains d'entre eux et non des moindres, de nous donner une quelconque prévision d'activité. Je crois qu'eux-mêmes ne le savent pas non plus. Voilà, je vais vous laisser la parole pour que vous me posiez les questions si vous en avez. Juste vous préciser aussi que dans certaines industries, compte tenu de la situation compliquée à laquelle nos clients font face, évidemment, des négociations se rouvrent sur le front des tarifs. Donc, on se retrouve dans une situation dans laquelle on doit gérer un contexte qui est plus compliqué que celui de 2008 parce qu'il est moins concentré sur un secteur d'activité et beaucoup plus violent dont les effets que nous devons piloter quasiment au jour le jour. Voilà, bon, cela dit, on y fera face, hein. Alten est une société saine, est une société qui n'est pas endettée. On a déjà dû gérer des situations de crise, et bien on gère la situation de crise. Voilà, et puis on espère que malgré tout, peut-être dès cet été, mais probablement à la rentrée, le rebond sera là. Si madame, vous voulez bien ouvrir la conférence aux participants, pour qu'ils puissent poser les questions qu'ils souhaitent.
Bien sûr. Mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, veuillez composer le 01 sur votre clavier téléphonique. Alors, nous avons une première question de Laurent Dor de Kepler Chevreux. Monsieur, c'est à vous.
Oui, merci. Bonsoir Bruno.
Bonsoir Laurent.
En fait, j'avais trois points, si vous voulez revenir dessus. Le compte Airbus, tu pourrais nous rappeler ce que ça représente un peu, c'est de loin le plus gros client, mais ce que ça représentait l'année dernière et quelle évolution a priori sur le S1, on va dire, tu attends. Le deuxième point, c'est sur ta gestion des effectifs. Donc, j'imagine que tu as un churn qui est proche de zéro là, ces dernières semaines. Quelle est la stratégie du groupe? Est-ce que tu envisages de faire des plans ou vous attendez un peu pour voir après le déconfinement ce qui va se passer? Et plus généralement, j'imagine que tu as déjà pris des mesures. Et est-ce que tu as des savings qui sont déjà mesurés? Et enfin, dans un environnement totalement incertain, quid de la politique M&A? Est-ce que devant, j'imagine, la difficulté à faire des prévisions sur les boîtes dans ton pipe, il faut plutôt s'attendre à des deals en toute fin d'année?
Alors, Airbus, l'avionneur, je vais essayer de répondre aux questions dans l'ordre, a représenté et représente toujours 10% du chiffre d'affaires. Groupe. Voilà, en sachant que sur ce compte, au Q2, on s'attend en moyenne à 40% de baisse d'activité. Alors, ça, on a eu plus sur avril, bon, même si le mois n'est pas terminé, ce qu'on a reporting en temps réel, des intercontrats, on est sur un niveau de 45 sur avril. Voilà, c'est un taux qui va baisser forcément puisque après le confinement, les activités vont reprendre. Donc peut-être que 40, je suis un peu haut, je sais pas trop, mais je préfère être prudent.
Mais est-ce que
ça peut rebaisser à enfin, on peut revenir à des niveaux d'intercontrat de l'ordre de 10-15% peut-être en juin, je ne sais pas, mais je pense qu'on restera plus élevé. parce que y a un certain nombre de projets pour lesquels qui redémarreront pas ou qui redémarreront pas avec les tailles d'équipe qui étaient celles qui étaient en place avant la crise.
Et en termes de, tu as l'impression qu'Alten sur ce compte maintient ses parts de marché, que ça représente bien la baisse
ah,
du.
Ah oui, oui. Alors c'est, oui, c'est pas propre à Alten. Hein. C'est,
oui, oui, je m'ajoute, mais.
Oui. Il n'y a pas de. Enfin, d'ailleurs, on doit être, probablement être le numéro 1 en ingénierie chez Airbus, numéro 2, je ne sais pas trop. Ça doit dépendre des années ou des trimestres. Donc, non, c'est. Ils sont en train de faire un inventaire précis et exhaustif de tous les projets en cours, au arbitrage.
Ok, sinon sur les, bon. Les savings,
enfin,
les
économies. Dans les perspectives que je vous ai données sur S1, en termes de projection de croissance organique, évidemment, on a fait un exercice qui a consisté à décliner par client, voire même par projet, les activités. Donc, c'est pris en compte. Hein. Alors, le turn à zéro, honnêtement, je ne sais pas. Il avait commencé à baisser sur mars. Il faudrait qu'on ait les sorties du mois d'avril pour voir. Alors, elles ont baissé aussi. On en a eu aussi, hein, quand même quelques-unes, même pas mal. Rien qu'en France, on a eu plusieurs centaines de départs, mais c'est des gens qui avaient posé leur démission il y a quelque temps. Donc il faudrait qu'on consolidera fin avril, à partir des agences, les démissions qui ont été reçues les 15 derniers jours d'avril. Parce qu'en fait, c'est ça qui permettra de mesurer l'évolution du turnover. Aujourd'hui, si je puis dire, même si le turnover baisse, on est sur un turnover embarqué, qui correspond au passé. Ce qu'il faut regarder, c'est le comportement des ingénieurs là, depuis le confinement, pour voir combien finalement de démissions. On a reçu de démissions sur avril. Et là, je n'ai pas le chiffre. Zéro, ça m'étonnerait qu'on descende à zéro, hein, parce que il y a toujours des départs. En 2008, juste pour vous donner un ordre de grandeur, au pire de la crise, je crois qu'on était tombé à 8 ou 9%. Ce qui restait quand même assez élevé hein, pour le contexte. Alors, les mesures qu'on a prises concernant les effectifs, évidemment, gel des embauches, les questions se posent sur, comme chez tout le monde, il y a des contrats de travail qui étaient signés, quid des entrées, donc pour l'instant on les a décalés dans le temps. On est forcément rigoureux sur les gestions de période d'essai, et puis pour l'instant on ne recrute plus personne, parce que, en tout cas, sauf besoin clairement identifié pour un projet spécifique qui doit démarrer, mais il ne faut pas oublier que avec les clients qui réduit fortement leurs activités, l'activité commerciale a fortement baissé aussi depuis le début du confinement. Bien sûr, il y a des rendez-vous qui sont par téléphone ou qui sont en vidéoconférence, mais clairement, le nombre de réunions commerciales a chuté de façon assez significative. Donc, ça va entraîner nécessairement une attrition des projets par votre conséquence. Et donc, le recrutement, pour l'instant, est vraiment on hold. Alors, faire un plan ou pas, pour l'instant, on a mis en place le chômage partiel partout où on pouvait, pour préserver les compétences au maximum, et on décidera d'un éventuel ajustement des effectifs à l'activité quand on y verra clair sur l'activité. Honnêtement, pour l'instant, c'est trop tôt.
Excuse-moi, mais en chômage partiel, par rapport à tes intercontrats, les zones, tu peux pas les mettre en partiel. Ça représente combien Il y a des zones où tu mets les gens en chômage partiel, tu as des aides d'État, mais c'est pas le cas de tous les pays et pas au même niveau. Donc aujourd'hui, en termes de personnes au chômage partiel, tu en as combien et ce que ça peut représenter en savings sur ta marge?
Bon, alors, le chiffre exact, je ne l'ai pas, je l'aurai à fin avril, parce qu'en fait, il y a des demandes qui sont faites dans tous les pays. En fait, ça se passe de la même façon. Alors, déjà, sur mars, le temps que les demandes soient faites, que les agréments soient obtenus, en réalité, tout ça, ça va passer sur avril, dans tous les pays. Et ensuite, la façon dont c'est géré, sur le principe, est à peu près la même partout. À savoir qu'on fait des demandes en volume, en heures en général, ou en ETP multiplié par un taux de chômage partiel qui peut être total, c'est-à-dire 5 jours par semaine, ou qui peut être partiel, c'est-à-dire 3 jours, donc en pourcentage. Et ensuite, à la fin du mois, en fonction de la réalité des projets, eh bien, on déclare les gens en chômage partiel, totalement, ou partiellement, ou pas du tout. Donc l'information, enfin, la question que tu poses, je n'ai pas la réponse pour l'instant. Ce que je peux dire, c'est qu'on a fait des demandes de chômage partiel partout où c'était possible, c'est-à-dire du furlough au UK, on en a fait en Roumanie, on en a fait en Allemagne, on en a fait en Suède, on vient d'en déposer en Belgique, bon, évidemment en France, pour les pays principaux, Espagne également. La Finlande a également ouvert la possibilité d'en mettre en place. Donc en fait, ça couvre quand même, et même l'Italie, où pourtant le taux d'intercontrat est relativement faible. Donc ça couvre quand même l'essentiel des pays dans lesquels on a des problématiques d'activité. Le seul pays qui n'est pas couvert par le chômage partiel, c'est les US, parce qu'en fait, là-bas, ils considèrent que si on n'a plus besoin des gens, on les licencie. Alors pour l'instant, on a pris la décision de ne pas le faire, hein, parce que c'est quand même compliqué de constituer un portefeuille de compétences. Nous, les gens, on les a recrutés, on les intègre, on les forme. Pour l'instant, on a décidé de ne pas licencier. On verra d'ici un mois aux États-Unis si on doit s'ajuster vraiment, c'est-à-dire si vraiment les projets qui aujourd'hui sont à l'arrêt dans des comptes comme Volvo, Ford, etc. ne repartent pas. Mais certains vont repartir, donc pour l'instant, c'est trop tôt pour prendre des décisions. Alors, le chômage partiel, selon les pays, il indemnise totalement ou pas. Par exemple, en France, l'État indemnise à hauteur de 70% du brut, ce qui fait que, grosso modo, les gens sont couverts à hauteur de 85 du net. La convention collective Syntec nous oblige à indemniser selon les salaires entre 75 et 80 du brut, bon, ce qui fait 90 à 100% du net, selon. Évidemment, le coût additionnel n'est pas pris en charge par l'État, puisque c'est une obligation conventionnelle. Partout dans tous les pays du monde, le chômage partiel ouvre droit à congé payé, qui n'est pas indemnisé par l'État, donc c'est schématiquement 10% du coût du salarié, charges sociales comprises en plus. Donc le coût n'est, enfin, même s'il y a du chômage partiel, ça ne neutralise pas le coût du salarié et ça ne neutralise pas dans des proportions qui sont hétérogènes selon les pays. Donc il reste, donc en fait, c'est bien le chômage partiel parce que ça permet de tenir et surtout ça permet de ne pas prendre de décision hâtive parce que quand même, notre savoir-faire, c'est nos ingénieurs, mais c'est pas sans incidence évidemment sur la marge. D'autant que non seulement il reste un coût résiduel, mais le chiffre d'affaires qui est perdu est un chiffre d'affaires qui ne rapporte rien, donc qui ne rapporte pas de marge. Et la marge qu'on perd, enfin ça c'est pas propre à Alten, hein, c'est vrai dans notre industrie, la marge qu'on perd sur le chiffre d'affaires, c'est de la marge directe sur projet. Donc c'est des marges brutes qui sont nécessairement bien supérieures aux 30% moyen de marge brute que nous avons, puisque ce taux de marge brute intègre en général l'intercontrat, les locaux, enfin tous les moyens nécessaires à la production. Enfin, la politique de M&A. Alors, on avait un certain nombre de dossiers qui étaient signés, mais pas closés, qu'on a pour l'instant gelé compte tenu de la situation. Ça ne nous empêche pas de regarder d'autres dossiers, parce que forcément, les sociétés qui souhaitent se vendre aujourd'hui se vendront moins cher qu'il y a un an. La difficulté, c'est celle que tu as dite, c'est-à-dire c'est que c'est compliqué de mettre le prix sur un actif quand on ne connaît pas la valeur d'un actif, puisqu'en fait, on ne sait pas ce que la société réalisera comme activité, comme marge en 2020. En plus, les vendeurs en 2020 ne sont pas légion, puisque l'année est complètement atypique et très loin d'être normative. Donc la question qui va se poser, c'est si deal il peut y avoir, ça va être de se mettre d'accord sur un down payment qui soit, je dirais, le plus faible possible, en tout cas en lien avec l'activité prévisible de 2020. Donc je ne vois pas de deal se closer avant Q3, en tout cas, j'en vois pas sur Q2, avec des earn-out qui seront probablement plus importants. Parce que corrélé au rebond 2021-2022. Mais ça peut être une opportunité de réaliser des acquisitions dans des conditions plutôt favorables qu'on n'aurait pas réalisées dans d'autres circonstances. Donc on n'a pas gelé la politique M&A, on continue à regarder, à analyser des cibles, etc.
Ok, merci beaucoup Bruno.
Merci. Nous avons une prochaine question de Grégory Ramirez. Monsieur, c'est à vous.
Oui, bonsoir Bruno. Je voudrais revenir sur le sujet de... Bonsoir. Sur les coûts. La façon
Sur les
coûts. Et notamment la part variable des coûts et tout ce qui concerne les frais hors personnel. Quelle a été déjà, disons, la flexibilité que tu as pu déjà mettre en œuvre depuis le début de la crise à ce niveau-là, éventuellement mettre un petit peu de chiffres par rapport à ça, notamment quelle est la part des coûts variables dans les charges opérationnelles. Et puis, j'imagine que l'exercice de budget est très, très difficile et qu'il y a plein de scénarios possibles. Quels sont... pour toi, les scénarios d'atterrissage en fonction d'atterrissage au niveau de la marge opérationnelle en fonction du niveau de baisse de chiffre d'affaires en organique qu'on peut avoir en 2020. Est-ce que, par exemple, si tu as, je sais pas moi, si tu finis à 10% de croissance organique, tu peux tomber sur 4 ou 5% de marge opérationnelle, par exemple.
Alors, je ne peux pas communiquer sur l'année parce que, évidemment, on a commencé à faire des simulations en interne en prenant des hypothèses sur S2, mais elles sont vraiment... D'abord, il y en a plusieurs. Les pondérer avec des taux de probabilité, ça ne veut pas dire grand-chose. Et donc, partons, on est dans la capacité mais réelle de donner une guidance sur le second semestre. Ça, c'est sûr. Surtout que la principale inconnue pour nous, c'est le niveau de reprise d'activité de l'aéronautique et de l'automobile, qui sont des secteurs qui sont quand même assez importants chez nous, parce que tout simplement, comme je le disais tout à l'heure, nos clients ne savent pas quels sont les projets et quel volume d'investissement ils vont maintenir, en tout cas sur la fin de l'année 2020. Donc ça c'est quand même pour nous une véritable inconnue et c'est d'ailleurs aussi pour ça que en écho à la question que posait Laurent, pour l'instant en termes d'effectifs, on est aussi dans l'expectative. Alors les coûts variables chez Alten, si j'étais un peu provocateur, je dirais il n'y en a pas en réalité, parce que à partir du moment où quelqu'un est en intercontrat, ça devient un coût fixe. Les ADC offshore, ça devient des coûts fixes puisqu'ils sont ils sont captifs. Donc en réalité, les coûts qui sont proportionnels, tous les coûts sont d'une certaine façon proportionnels à l'activité. Les ingénieurs évidemment, puisque en fonction du nombre d'ingénieurs à taux d'activité constant et normatif, 92-93, ce sont des coûts proportionnels, mais en réalité, ce ne sont pas des coûts variables. Parce que à l'exception de certains sous-traitants qu'on peut décider d'arrêter si l'activité s'arrête. Et chez nous, ça représente 5%, on va dire, des ressources productives. Et encore, certains sont sur projet. On ne va pas arrêter les sous-traitants qui sont sur projet, parce qu'en règle générale, quand on fait appel à des sous-traitants, ce n'est pas dans une logique de variabilisation des coûts, mais c'est parce qu'on n'a pas la compétence en interne. On réalise une marge plus importante sur un ingénieur interne que sur un sous-traitant. Donc, à l'exception de ce volant-là, dans la réalité, il y a pas ou peu de coûts variables. Les coûts variables, je dirais, c'est les bonus des managers, toutes fonctions confondues. Mais ça s'arrête à peu près là. Donc, il nous faudra, de toute façon, ajuster la structure, si nécessaire, en fonction du niveau d'activité de 2020, mais surtout de celui qu'on considérera comme étant normatif et embarqué pour 2021. Si on considère que 2020 est une année blanche, il nous faudra décider en fonction de ce que l'on comprendra des projets chez nos clients pour l'an prochain, de la façon de dimensionner la société. Ce qui est clair, c'est que les coûts ont été dimensionnés pour 2,850 milliards. Clairement, on ne les fera pas cette année. On sera en recul organique, je ne sais pas dire de combien. 9 probablement au S1 sous toute réserve, on verra bien au S2, avec, comme je l'expliquais à Laurent, une perte de chiffre d'affaires qui coûte très cher, puisqu'en fait, on perd l'intégralité de la marge. Alors ensuite, comment tout ça se décline en termes de marge opérationnelle? Moins de 5 au S1, ça c'est quasiment sûr. Après, le S2, je ne sais pas. Et encore, je dis c'est quasiment sûr, ça dépendra de mes jeux, en fait, en réalité. Donc c'est vraiment un exercice compliqué. On a des scénarios, effectivement, mais c'est un exercice compliqué. C'est pour ça qu'on ne communique pas sur la marge. Habituellement, je vous donne des fourchettes, parce qu'on a des scénarios qui sont plus ou moins prévisibles. Mais là, on a des scénarios qu'on s'est construits nous-mêmes au travers des échanges qu'ont nos directeurs opérationnels avec les clients. Encore une fois, comme les clients eux-mêmes n'y voient pas clair, même sur les plans de reprise d'activité, c'est-à-dire que pour que l'activité reprenne là dans 15 jours, il faut que les plans de reprise d'activité sanitaire soient définis. Certains ne les ont pas complètement définis encore. Dans quelle proportion, quand bien même on sortira du confinement progressivement en Europe en mai, les projets pourront reprendre? Au moins pour ces questions-là, en fait, on n'en sait rien. En plus, vous avez vu que il va y avoir une jurisprudence Amazon qui va faire que il n'est pas impossible qu'il y ait des reprises d'activité qui soient soumises à accord de ce qui a succédé au CHSCT, et donc partant aux partenaires sociaux. Donc ça peut rendre les choses plus compliquées dans certains cas, même si tout le monde est extrêmement vigilant sur les conditions sanitaires et sur toutes les mesures à mettre en place. Ça, c'est non négociable et nulle part. Voilà. Donc, tout ça pour dire que, je suis désolé, mais je ne peux pas répondre à la question de façon très précise. Mais le chiffre de 5 n'est pas un chiffre aberrant, comme ça pourrait être 6, comme ça pourrait être 4,2, comme ça pourrait être 6,5. Franchement, il y a une telle sensibilité au chiffre d'affaires que ça se chiffre quand même en dizaines de millions d'euros en fonction de l'hypothèse de chiffre d'affaires retenue. Comme on ne l'a pas sur S2, parce que 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça fait grosso modo, en marge brute directe sur projet, schématiquement, ça fait 35 millions. Vous voyez ?
Et sinon, du point de vue du comportement des clients, j'imagine que dans certains cas, ils demandent aussi, du moins vous entamez des discussions aussi sur le rallongement des délais de paiement.
Alors, il y a quelques discussions qui portent sur les rallongements de délais de paiement. Bon, ce n'est pas les discussions les plus importantes auxquelles on est à faire face. De toute façon, les clients ont une façon simple de gérer les délais de paiement, c'est de ne pas envoyer les commandes. Donc ça fait partie des sujets récurrents de discussion avec les clients. D'où le fait que quand on est dans l'industrie, on a des délais de paiement très élevés. Donc oui, il n'est pas impossible que le DSO se détériore un petit peu. Ça, c'est pas impossible. Pour l'instant, on ne l'a pas constaté. On encaisse bien régulièrement. Donc les factures de 2019 et celles de début 2020 sont payées. Les discussions, elles portent sur d'autres sujets. Elles portent sur les prix. Clairement, les clients reviennent en expliquant qu'ils sont dans une situation financière ultra compliquée et de trésorerie d'ailleurs dans certains cas compliquée. Donc ils nous demandent, enfin ils nous demandent de façon générique hein, à l'ensemble de la profession de faire des efforts significatifs sur les tarifs. Alors certains de façon ponctuelle, certains souhaitent revoir l'intégralité des grilles et des référencements. Bon. Donc, je te laisse imaginer les discussions sur le sujet. Certains demandent à ce que, par exemple, on ne fasse pas de marge sur une partie de nos activités sur 2020, le temps de leur laisser le temps de se refaire. Vous voyez. Bon. Certains demandent à ce qu'on fasse des baisses ponctuelles de 30%. D'autres ne demandent pas ça, mais demandent des baisses de 5 à 7% ou de 5 à 10% à l'avenir. Enfin, on voit de tout. Hein. Il faut discuter avec nos concurrents, je pense qu'ils vous diront la même chose. Donc, ça part dans ces directions-là, ça part aussi dans d'autres directions. Par exemple, quand on est en télétravail et que les ingénieurs ne sont pas sur site, vous avez des clients qui disent bah, « Nous, on considère que la productivité ne peut pas être la même. » Donc, à partir du moment où elle ne peut pas être la même, on considère que 10, 15, 20% de productivité n'est pas là. Donc on vous demande une réduction sur les prix pour toutes les activités tant qu'elles sont en télétravail de 15 à 20%. On ne dit pas oui, mais c'est juste pour vous dire que l'ambiance est quand même assez, assez délétère. Bon, après, on n'est pas surpris, hein, c'est le contexte qui veut ça. Donc, tout ça va finir par se renormaliser, ça va finir par rentrer dans l'ordre, mais le contexte aujourd'hui est celui-ci.
Merci, nous n'avons pas d'autres questions par téléphone. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que si vous souhaitez poser une question, veuillez composer le 01 sur votre clavier téléphonique. Nous avons une question de David Marcon, de Société Générale. Monsieur, c'est à vous. Monsieur Marcon, votre micro est ouvert, vous pouvez poser votre question. Alors, nous allons prendre une prochaine question de Stéphane Lovansky de Exane BNP. Monsieur, c'est à vous.
Oui, merci. Bonsoir, Bruno.
Bonsoir.
J'avais deux questions. Donc, la première sur la Chine. Je pense que tu as dit que pour l'instant, vous ne voyez pas de redémarrage en Chine. C'est bon, on entend que depuis fin mars que les choses ont reparti en Chine et que ça reprend. Je serais intéressé de voir ce que tu dis sur la Chine. Deuxième question, c'est juste quand on commence à penser à la réouverture en Allemagne et peut-être éventuellement en France. Je sais que c'est tôt, mais peut-être même pour l'année prochaine. Est-ce que tu penses que les projets vont changer? Comment est-ce que les projets pourraient changer chez les clients? Est-ce qu'il y aura peut-être plus de, bon, je dirais, bon, les types de projets ou ce qui est important pour les clients, est-ce que ça pourrait changer éventuellement par rapport aux projets qu'il y avait avant cette crise? Merci.
Alors, concernant la Chine, l'activité est bien repartie en Chine progressivement à partir du mois de mars. Tout le monde a été confiné, donc nos ingénieurs ont travaillé en télétravail pendant un mois et demi. et ont été autorisés à revenir sur site, soit chez les clients, soit chez nous, progressivement. En Chine, normalement, notre taux d'activité, il est de 95-96%. Donc on a 4% d'intercontrat, 3-4% d'intercontrat de façon générale. Bon, l'intercontrat avait augmenté assez sensiblement pendant la période de confinement, parce qu'il y a des clients qui ont arrêté les projets purement et simplement, dans l'automobile notamment. Donc on est monté à des niveaux d'intercontrat de 30-40%. Et puis tout ça s'est résorbé et aujourd'hui, notre niveau d'intercontrat en Chine résiduel, il est de l'ordre de 10%. Donc l'activité est bien repartie. Elle n'est pas repartie complètement, mais voilà. Et c'est dans les comptes totaux où subsiste encore un peu d'intercontrat. Concernant maintenant les projets, à partir du moment où l'activité va repartir en France, en Allemagne, en Suède, en fait, un peu partout. Les questions qui vont se poser, c'est quels sont les volumes d'investissement que les clients vont dimensionner pour fin 2020 et 2021, dans la mesure où leurs revenus, notamment dans l'auto et l'aéro, vont baisser de façon assez sensible. Et partant, en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est l'inventaire des projets pour prioriser les projets en fonction de leur degré d'urgence et puis aussi en fonction de leur taux d'avancement, parce qu'un projet qui était avancé à 80%, autant le terminer, sinon tout l'investissement est perdu. Et ensuite, et pour décider, donc soit d'en arrêter, soit d'en continuer, bon, la plupart, j'espère, continueront, mais il y en a certains qui seront arrêtés, ça c'est sûr, voire certains projets seront redimensionnés, comme je l'expliquais, c'est-à-dire qu'on commence à entendre des clients nous demander de penser à la réduction d'équipe qui était assez conséquente pour la poursuite du projet, quitte à réduire le cahier des charges. Après, il y a aussi des projets qui peuvent être revus pour des questions d'enjeux métiers. Je pense par exemple à toutes les activités de manuf engineering chez Airbus, dont une part visée à répondre à la problématique de l'augmentation des cadences de production. Bon, là, Airbus a annoncé qu'ils allaient réduire leur production parce que les compagnies aériennes, certaines avaient annulé des commandes ou les avaient décalées. Donc je crois que c'est public, mais Airbus était sur un rythme mensuel de plus de 60 à 320. Je crois qu'ils vont redescendre à 40. Donc la question, c'est pas comment on passe de 60 à 80, mais c'est comment économiser, parce que de toute façon, ils sont largement en mesure de produire les 40 aujourd'hui. Voilà. Donc ensuite, il y a toute une étude que font nos clients sur l'intérêt des projets à mener, en cours, à poursuivre ou pas. Et ça, évidemment, nous sommes dépendants de leurs propres conclusions. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il y a des baisses de revenus dans des secteurs, d'ailleurs dans quel que soit le secteur, toute baisse de revenus à terme entraîne une baisse des budgets, même si c'est de la R&D, puisque de toute façon, les budgets de R&D, ils sont contraints par le niveau de la top line. Alors bien sûr, les projets sur les problématiques d'émissions, de mise aux normes, à moins que l'Union européenne décide de revenir dessus ou les décaler dans le temps, bon, tous ces projets-là vont être poursuivis, parce que de toute façon, la vie ne va pas s'arrêter. Il faudra bien. Enfin, la révolution en cours dans le monde de l'automobile, elle est en train de se faire, elle se fera, même si elle est décalée d'un an ou deux. C'est pour ça que nous, on anticipe plutôt un rebond en 2021 dans l'automobile qu'en 2020. Mais c'est une vision, je dirais, entre guillemets, haletante, hein, vous voyez. Mais dans l'aéronautique, on pense que la crise sera plus durable et plus longue, et que le niveau d'investissement va baisser. Alors, dans quelle proportion, franchement, on ne peut pas parler à la place de nos clients, mais s'il y a un fait qui est à peu près certain, c'est qu'il va baisser.
Ok. Merci beaucoup, Bruno.
Merci. Nous avons une prochaine question de David Marcon, de Société Générale. Monsieur, c'est à vous.
Salut Bruno, merci beaucoup pour le temps que tu nous consacres et le courage que tu mets à discuter des choses auxquelles tu ne nous avais pas habitués. J'avais deux questions, moi. La première, c'est sur revenir sur le taux d'utilisation, donc tu précisais qu'en mars, il avait baissé à 88. Tu nous as donné des tendances pour le Q2 par pays. Est-ce que tu pourrais quand même faire un point sur où tu en es sur les 15 premiers jours d'avril ou sur la stat que tu as depuis le début de Q2 pour qu'on ait un ordre d'idée sur ce que ça peut donner? Et ma deuxième question, c'est, je reviens sur la question de Laurent, mais c'est vrai que quand tu nous donnes des taux d'intercontrat aussi élevés, j'imagine que c'est hors chômage partiel. Donc si on prend
Ben bien
30%
sûr,
en
bien sûr.
France, ça fait 3 000 personnes. Est-ce que quand même tu peux me donner des ordres de grandeur sur le nombre de personnes dans ces 3 000 que tu es capable de, ou que tu penses pouvoir mettre, parce que tu as déjà négocié des accords avec le ministère du Travail sur l'enveloppe justement d'heures que tu vas pouvoir, dans laquelle tu vas pouvoir taper, le nombre de personnes que tu es susceptible sur ces 3 000 de mettre en chômage partiel? Parce que au final, si je regarde le verre à moitié plein, je me dis finalement avec une telle baisse de top line au Q2, sortir 5% de marge, c'est que quand même tu dois avoir des aides derrière qui compensent quand même beaucoup la perte de chiffre d'affaires. Donc peut-être je me trompe, hein, mais 30% de baisse
Non,
de 30% d'intercontrat, ça fait quand même des sacrés dégâts sur la marge.
Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Alors, au Q2, on a pris des hypothèses de taux d'intercontrat. Alors évidemment, quand je parle de taux d'intercontrat, ça inclut le chômage partiel, parce que c'est pas cumulatif. Mais effectivement, les gens qui sont au chômage partiel sont répertoriés dans nos outils comme étant au chômage partiel, mais économiquement, on les considère comme étant sans projet quand même, hein, donc en intercontrat économique. Mais c'est bien de poser la question et de le préciser parce qu'effectivement, c'est pas cumulatif, ça en fait partie. On a donc eu un mois de mars compliqué sur les 15 derniers jours, avec un taux d'intercontrat qui montait à 12%, 12-13%. On est sur un niveau d'intercontrat sur avril qui est de l'ordre de 25 au niveau groupe, hein, voilà, et il va redescendre forcément sur mai et juin. Probablement sur des niveaux d'un peu moins de 20%. Mais encore une fois, ça fait partie de nos simulations, puisqu'on ne sait pas concrètement à quel rythme les projets vont reprendre et dans quelle proportion sur mai et juin. Donc tout ça reste, on va dire, ce qui nous paraît le plus probable. Alors, quand on a des gens qui sont sans activité, le propre du chômage partiel, c'est de pouvoir compenser la perte d'activité liée au contexte économique. Alors, ça ne fonctionne pas de la même façon exactement dans tous les pays, même si le principe est le même. Il y a des pays où, quand les gens sont sans activité et que le chômage partiel est ouvert, je pense notamment à l'Allemagne, les procédures d'admission au chômage partiel sont beaucoup plus simples qu'en France. Bon, enfin, ça ne sera pas un scoop, hein, parce que ce qui est bien, c'est que on a une vision à peu près panoramique de ce qui se passe en Europe sur la façon dont le chômage partiel est géré, et sans surprise, la bureaucratie française est quand même la plus efficace. Donc, on a donc dans les certains pays.
Avec eux, ils avaient fait des efforts. Ils ont fait des efforts pour simplifier.
Alors c'est vrai pour, je pense, des sociétés de petite taille. Parce que on sait que dans le secteur, je le sais pour y connaître un certain nombre d'acteurs, et puis parce qu'il y a beaucoup d'anciens d'Alten qui ont essaimé, qui ont créé des boîtes de leur côté, des sociétés de petite taille qui sont vraiment prises à la gorge obtiennent en règle générale un accord à minima implicite du chômage partiel assez rapidement. Les grosses sociétés, c'est plus compliqué. Bon. Mais donc, pour revenir à la façon dont ça se passe, donc il y a des pays où, à partir du moment où on remplit les conditions d'admission au chômage partiel, à savoir baisse d'activité liée à des conditions économiques qu'on peut le démontrer, évidemment, s'il y a des clients qui arrêtent des projets ou qui les suspendent, etc., c'est pas open bar non plus, et bien dans ces cas-là, on y a le droit de droit, si j'ose dire, et par voie de conséquence, l'indemnisation, elle se fait soit en direct auprès des salariés, c'est le cas de la Belgique par exemple, soit c'est l'entreprise qui avance et qui est remboursée en tout ou partie. Je ne vais pas détailler pays par pays, ce n'est pas l'objet de la réunion, mais il y a des pays où c'est pris en charge complètement, il y a des pays où c'est pris en charge partiellement, donc il y a des pays où on offset 70% du coût, il y a des pays où on offset 50% du coût, bon, ça dépend des pays. Il y a des pays où quand les gens sont au chômage partiel, puisque évidemment ce qui est indemnisé c'est le salaire brut, on continue à payer les charges sociales, il y en a d'autres où on ne les paye pas. Il y a des pays où il faut compléter par rapport au salaire net, il y a des pays où ce n'est pas la peine de compléter, il y a des pays où ça dépend des conventions collectives comme la France. Bon, on a un peu tous les cas de figure qui peuvent se présenter, mais schématiquement, dans la totalité des pays dans lesquels on dépose une demande de chômage partiel, si on remplit des critères, bah, c'est binaire, c'est oui ou c'est non. Donc bah, si c'est oui, c'est oui. Et on peut y avoir droit. Donc nous, on a déposé dans tous les pays dans lesquels on a à faire face à une baisse d'activité. Et donc, j'allais dire, les intercontrats liés à la baisse de l'activité sont pris en charge par le chômage partiel. Bon. En France, et c'est normal, l'État est vigilant pour éviter les abus. Donc nous, on a déposé des demandes de chômage partiel pour, parce qu'en fait, en volume, c'est évidemment en France où on a le plus de gens qui sont susceptibles d'être au chômage partiel compte tenu du profil du groupe. Donc effectivement, quand on parle de 3 à 4 000 ingénieurs, on est effectivement dans les purs, si on prend les filiales Alten et ses filiales françaises, en sachant que certains sont au chômage total et d'autres sont au chômage partiel. Effectivement, on fait une demande d'heures en fonction de la volumétrie des gens qui sont susceptibles d'être concernés par le chômage partiel, en sachant que ben, on les déclarera à la fin du mois en fonction de la réalité. Hein. On nous donne un accord a priori pour un volume d'heures, et ensuite ce volume d'heures, il doit être justifié par une réalité économique. Ça, c'est normal. Et en France, on considère, mais ça c'est normal, que l'État n'a pas à prendre en charge les intercontrats entre guillemets structurels, c'est-à-dire qu'on ne va pas déposer de demande de chômage partiel pour des gens qui étaient en intercontrat ou qui correspondent à un intercontrat normatif, mais on ne le fait que pour les gens qui se retrouvent en intercontrat du fait de la crise. Donc en clair, si on a un taux d'intercontrat de 25% et qu'habituellement on a 6%, bon, on va déposer pour la différence. Et on doit être en mesure de justifier. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, c'est des discussions avec l'administration. Soit on a un accord explicite de l'administration qui a instruit le dossier, soit on a un accord implicite parce qu'elle n'a pas eu le temps et au bout de 48 heures, elle valide. Bon, elle se réserve ensuite le droit de venir contrôler, c'est normal. Soit on a des jeux de questions-réponses dans lesquels on doit répondre pour pouvoir démontrer qu'effectivement on est dans une situation qui requiert la mise en place du chômage partiel. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
Pas tout à fait. En fait, ce que j'essayais de comprendre, c'est déjà est-ce que à date, tu as, avec toutes ces discussions déjà menées, tous les accords implicites ou explicites déjà reçus, voire même les procédures en cours, est-ce que tu as hedgé ton risque d'intercontrat lié à la crise, effectivement, tu as raison de me faire préciser, du F1 le fait que le niveau d'EBIT margin au F1 que tu vois, bah, finalement, si tu fais, je sais pas moi, 4-5% pour, alors que ton top line décroît de 20% au Q2, bah, finalement, si tu vois le verre à moitié plein, c'est plutôt pas mal. Enfin, moindre mal.
Oui, c'est un moindre mal. Donc en France, où on en est aujourd'hui, on a déposé dans tous les pays européens et à ma connaissance, il n'y a pas eu de problème. En France, on a déposé pour toutes les filiales et tout est passé en accord explicite ou implicite. Et on a déposé pour Alten SA, donc pour ça représente à peu près je peux pas donner les chiffres parce que ça se donne pas, mais bon, ça représente, on va dire, la moitié des effectifs concernés pour la France. Et là, on est dans un jeu de questions-réponses avec l'administration. Qui pose des questions, enfin, on comprend très bien, hein. Est-ce que vous avez mis en place des mesures qui permettent de préserver l'activité? Qu'est-ce que vous avez mis? Est-ce que vous avez mis en place le télétravail? Est-ce que les gens ont posé des CP? Enfin, des questions légitimes. Mais bon, c'est plus... on va dire, c'est moins fluide que dans d'autres environnements.
50%, ça correspond à quoi? C'est 50% des effectifs en intercontrat liés à la crise qui sont déjà couverts parce que tu as déjà fait, et le reste, c'est dépendant du jeu de questions réponses.
50% France. Hein.
En France, qui sont déjà couverts parce que tu as déjà fait, et les restants de 50%, c'est dans le jeu de questions-réponses.
C'est ça.
Ok. Et est-ce que, comme d'autres, tu as été... on parle que des effectifs productifs ou tu as fait des demandes aussi pour les effectifs non productifs?
Non, on a fait des demandes aussi pour des effectifs non productifs. Alors, pas énormément, parce que... en fait, ça dépend des fonctions. On a passé les fonctions en revue une à une, et puis on a... par exemple, les chargés de recrutement, en ce moment, sont pas débordés. Donc, forcément, on a fait une demande de chômage partiel, pas totale, mais on a considéré qu'elles étaient ces gens-là étaient majoritairement en chômage partiel. Les gens de la finance, c'est pas le cas, par exemple. Il y a certains managers commerciaux, c'est loin d'être le cas. Ils sont sur le pont nuit et jour. Vous voyez, bon, ça dépend vraiment des fonctions. Les gens qui font de l'événementiel, ils sont en chômage partiel. Vous voyez, bon. Même s'il y a quand même des événements à organiser pour la rentrée, etc., c'est sûr que tout ce qui est séminaire commercial du mois de mai, réunion d'agence, etc., pour des raisons évidentes, tout ça est annulé. Donc on a raisonné vraiment fonction par fonction, et dans les demandes qu'on fait, ça aussi c'est quelque chose par exemple qui est demandé par l'administration en France, ils nous demandent précisément de détailler l'organigramme, enfin en tout cas pour des sociétés de notre taille, hein. Encore une fois, parce que c'est pas forcément le cas pour des sociétés plus petites, mais ils nous demandent de détailler les fonctions, ils regardent la cohérence, j'imagine, par fonction des taux de demande de chômage partiel, etc.
C'est une dernière question, si tu me le permets, si on se projette après crise. Est-ce que finalement, la mise en place aujourd'hui à grande échelle du télétravail, chez les clients et chez toi, chez Alten, Ça vous amène à des réflexions sur la façon de délivrer les projets pour les clients, même post-crise. C'est-à-dire, tes ingénieurs associés en Antipolis aujourd'hui qui ne travaillent plus pour Amadeus et qui vont peut-être plus travailler longtemps pour Amadeus, est-ce que tu peux les réutiliser, entre guillemets, malgré qu'ils sont dans le sud de la France, sur des projets ailleurs en France, puisque le remote work, finalement, ça devient un peu le standard? Où ça restera quand même très compliqué de faire, de manipuler mieux cette workforce grâce à un travail en remote versus avant la crise.
Alors, bon, déjà, ce qu'on est en train de regarder, évidemment, c'est que, par exemple, concrètement, les gens qui travaillaient pour Amadeus, parce que Amadeus va arrêter ses projets progressivement, là. De regarder comment on peut réutiliser les compétences dans d'autres secteurs d'activité, notamment dans des secteurs plus en lien avec l'IT, et qui effectivement ne seront pas forcément sur Sophia Antipolis. Donc oui, la réponse est oui, on peut s'organiser en faisant travailler les gens à distance. De toute façon, quand ils sont sur nos sites, d'une certaine façon, ils travaillent déjà à distance vis-à-vis du client, parce qu'il y a des points avec les clients. Des management committees ou des steering committees qui se tiennent, mais à des périodicités qui sont hebdomadaires ou mensuelles, selon les cas. Donc oui, on peut envisager que le travail à distance puisse perdurer. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que finalement, dans une expérience grandeur nature, ça fonctionne plutôt bien. En revanche, ce qu'on ne sait pas, c'est si ça fonctionne plutôt bien dans la durée. D'abord parce que pour travailler à distance, il faut avoir les conditions pour. Tout le monde ne les a pas. Hein. Il n'est pas rare d'entendre des paires de claques qui se perdent dans les conf-calls parce qu'il y a les enfants derrière et que les conditions ne sont pas forcément évidentes. En revanche, ça fait gagner du temps de transport. Ça peut présenter un autre intérêt, c'est que si les gens savent s'organiser et savent travailler de façon vraiment autonome chez eux, on pourrait imaginer, à terme, avoir moins de locaux, par exemple. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a pris énormément de mètres carrés pour faire face aux exigences clients qui étaient que les work packages devaient se trouver réalisés dans des locaux à proximité de leur propre site. Pour pouvoir justement fluidifier les échanges et notamment les échanges humains, on pourrait imaginer avoir moins de locaux et faire tourner les gens sur les sites dans une organisation du travail dans laquelle, les gens viendraient sur site 3 jours et puis resteraient chez eux 2 jours. D'ailleurs, il n'est pas impossible qu'on ait à mettre des plans de roulement en place. On a une équipe qui est dédiée sur les aspects de sécurité et qui regarde ça chez nous, parce que il y a un certain nombre de plateaux qui sont organisés en open space. Les barrières de distance d'un mètre, sauf à mettre des plexiglas entre chaque bureau, elles ne sont pas respectées. Voyez. Donc oui, la réponse, c'est ça va amener à des réflexions sur l'organisation du travail. Je ne crois pas que les gens pourront travailler chez eux sans jamais venir au bureau ou en venant juste quelques heures par semaine, parce qu'il y a quand même un lien social et professionnel qu'il est nécessaire de maintenir. Bon, et puis on voit bien d'ailleurs, hein, je sais pas, mais les expériences que vous pouvez avoir les uns et les autres, mais moi je vois bien chez Alten, au bout d'un moment, au bout de quelques semaines en télétravail, il y a des gens qui craquent et qui reviennent au bureau à la moindre occasion, parce qu'ils sont très contents de revenir. Ça nous amènera à réfléchir sur l'organisation différemment. On a vu des réunions, des vidéoconférences à 50-60 personnes. Un truc qu'on n'aurait pas imaginé avec les outils modernes, qu'heureusement on a déployé il y a un an et 2 ans, qu'on n'aurait pas imaginé il y a encore 6 mois. Et ça fonctionne bien.
Alors moi, c'est pas le bruit des claques, c'est le piano que j'entends. Mais... c'est tout aussi dérangeant. Je te remercie, Bruno. Moi,
je dis ça parce que ce matin, j'avais une vidéoconf et il y a un truc à claquer derrière. Bon, c'était assez... c'est normal.
Ça, c'est le principal frein au télétravail, effectivement, la fermeture des écoles. C'est pas compatible.
Parce qu'on peut pas s'occuper... Enfin, c'est compliqué, forcément. Non, et puis, il faut avoir les conditions. Nous, on a des gens qui sont jeunes, quand même. Les ingénieurs d'Alten, ils ont 30 ans de moyenne d'âge. Donc 30 ans de moyenne d'âge, ça veut dire qu'ils viennent de rentrer dans la vie active, qu'ils ont des moyens limités, ils n'ont pas tous un appartement dans lequel avoir un bureau pour s'isoler. Il faut penser aux contraintes pratiques aussi.
C'est vrai. Merci beaucoup Bruno et je te souhaite un excellent week-end.
Merci Eric.
Merci, nous n'avons plus d'autres questions. Je vous rends la parole pour la conclusion.
Écoutez, je vous remercie beaucoup à tous d'avoir participé à cette réunion téléphonique un peu particulière. Je crois que c'est la première fois qu'on est appelé à... Il y a eu 2008 qui a été compliqué, mais a évoqué des sujets qui sont vraiment très différents de ceux qu'on avait l'habitude d'évoquer ces dernières années. J'espère que vous avoir donné... une compréhension de ce qu'était le marché aujourd'hui, bon, au mieux de ce qu'Alten perçoit. Lors de la publication du mois de juillet, je serai plus précis sur la marge du S1, puisqu'effectivement aujourd'hui, faire des prévisions, comme tout dépendra finalement du niveau de chiffre d'affaires de mai et juin, c'est compliqué, et effectivement, la sensibilité au chiffre d'affaires est très élevée. Mais je vous donnerai forcément au mois de juillet une vision quand même assez précise de ce qu'on pourra attendre en termes de marge sur le premier semestre. Déjà, on verra si le niveau d'activité a reculé de plus ou moins 9%. Peut-être qu'on aura une bonne surprise. Mais honnêtement, on a fait nos prévisions de façon assez objective. Et puis surtout, on aura, j'espère, à ce moment-là, une vision plus claire des perspectives de reprise d'activité pour le second semestre et un horizon qui, j'espère, va s'éclaircir progressivement. D'ici là, je vous souhaite de passer un bon week-end et puis à bientôt. Au revoir.
Mesdames et messieurs, la conférence est maintenant terminée. Merci à tous de votre participation. Vous pouvez à présent vous déconnecter.